Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission de l'Actuality sur PFM 99.9, l'émission de débat des lycéens sur des thèmes de société, sur des thèmes variés. À la rentrée, il y a eu beaucoup de lycéens qui ont afflué dans l'équipe pour essayer de débattre ensemble, et donc ce qui a contribué à la formation d'une deuxième équipe. Et donc à vous l'antenne, la deuxième équipe, c'est à vous qu'on donne l'antenne aujourd'hui, à vous de jouer.
Mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur PFM 99.9. Donc je me présente, je m'appelle Owen et je suis un membre de l'Actuality Team. Je suis actuellement avec mon très cher ami Loïc.
Oui, bonjour.
Avec Clément qui a récemment rejoint l'Actuality Team.
Bonjour à tous.
Et avec Renan.
Bonjour.
Donc aujourd'hui nous allons débattre sur le sujet alors, sur l'affaire Sarkozy. Donc Loïc, je te laisse la parole.
Peut-être juste avant de commencer, j'aimerais juste préciser que PFM 99.9 lance un appel aux dons sur son site internet www.pfm99.9.com.
Radio PFM.
Ah, Radio PFM, excusez-moi. Donc si vous voulez nous aider, n'hésitez pas.
Je te remercie Loïc, donc je reprends ce que j'allais dire. Donc nous allons aujourd'hui débattre sur l'affaire Sarkozy. Donc Renan, je pense que tu as quelque chose à dire à propos de cette affaire.
Eh bien oui, je vais mettre en situation donc cette affaire. Il faut savoir que Nicolas Sarkozy a été convoqué par la police judiciaire à Nanterre ce mardi 20 mars pour être entendu pour la première fois sur une enquête remontant à 2013. Après des révélations en 2012 par le média Mediapart, qui a publié une note de l'ex-dirigeant libyen, Muammar Kadhafi, faisant état d'un don de 50 millions d'euros pour le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2017. Donc la mise en examen a commencé mardi. Bon, Nicolas Sarkozy a pu quand même rentrer chez lui pendant la nuit, on ne sait pas pourquoi, et revenir tranquillou le mercredi 21, donc le lendemain, et terminer sa garde à vue au soir. Il faut savoir que Nicolas Sarkozy a toujours rejeté les accusations faites donc du financement de la Libye pour sa campagne, mais cette affaire a été corroborée par Ziad Kadiatin, je ne sais pas si je le prononce bien, hein, excusez-nous pour ça, et d'anciens ex-responsables libyens qui disent bien qu'ils ont donné de l'argent à Nicolas Sarkozy et aussi à son parti afin de financer leurs actions. Voilà, voilà. Alors qu'est-ce que vous avez à dire dessus ?
Alors, juste pour savoir, oui, le carnet qu'on a retrouvé, comment dire, on en a retrouvé un autre récemment, ou c'est un nouveau carnet, ou parce que je sais qu'on avait déjà trouvé, donc Mediapart, encore une fois, avait trouvé un carnet avec
en 2012. Trois
de ses versements, d'accord, en 2012, donc c'est le même, qui était tenu par l'ancien ministre du pétrole libyen, qui d'ailleurs a été retrouvé noyé à Vienne en avril 2012. Donc,
étrange.
étrange.
Oui, et il faut savoir que de l'argent liquide avait été, en mouvement parmi les proches de Sarkozy. Et quand je dis les proches, c'est aussi bien la famille que son parti politique et ses ministres. Donc de l'argent liquide qui, parfois, prenait des chemins un peu particuliers. On sait que, je ne sais plus si c'est Hotfeu, son ancien ministre de l'Intérieur, qui avait reçu d'un avocat malaisien de l'argent. Donc, en gros, c'est pour dire que l'argent du financement de la campagne 2017 et l'argent reçu par le parti Nicolas Sarkozy a pris des fois des chemins un peu tentaculaires, un peu sinueux, on va dire. On ne sait pas trop d'où vient l'argent et c'est ça que la police judiciaire veut essayer de résoudre, c'est d'où viennent son financement, d'où viennent ses financements. Et comme j'ai dit tout à l'heure, Nicolas Sarkozy nie complètement tout cela, malgré que des témoignages de certains Libyens montrent bien qu'il y a bien de l'argent qui a été donné à l'ancien président de la République.
Sans compter les carnets. Et puis, après, ils ne sont pas, comment dire, c'est pas la première affaire qu'on a sur... Enfin, par exemple, on se rappelle tous de l'affaire Big Malion, l'affaire Bettencourt, l'affaire de, bah, justement, la campagne électorale dont les fonds ont dépassé le seuil maximal de je ne sais plus vraiment combien d'euros, je retrouverai ce chiffre-là. Voilà, de 18 millions d'euros à peu près. Enfin voilà, c'est pas la première affaire. On a aussi l'affaire Tapie. Non, ils sont pas à leur coup d'essai.
Oui. Et aussi, il faut savoir que Monsieur Guéant, l'ancien secrétaire général de l'Élysée du temps de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire entre 2007 et 2012, si je ne me trompe pas, est actuellement en audition libre pour parler de cette affaire. On va dire que les soupçons sont jetés sur pas mal de membres de l'ancien gouvernement et que je pense que ça va prendre un peu de temps pour élucider l'affaire. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que d'après Le Monde, c'est une affaire tentaculaire. Il faut savoir que, je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas de notes exactes qui stipulent que... On n'a pas des rapports de transactions. Ça n'a pas été fait d'un compte à un autre. C'est pas Muammar Kadhafi qui a fait un virement sur celui de Nicolas Sarkozy. Ce serait beaucoup trop facile à voir. Et donc, le problème, c'est que l'argent a donc été transporté en liquide et des fois par des chemins, on va dire, mystérieux. Et c'est pour ça que cette affaire est compliquée. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont, comment dire, dans l'affaire. Donc des ministres, des proches du président, etc. Bon, ça met quand même des soupçons sur un peu tout le monde politique de l'époque, quelque part.
D'ailleurs, selon vous, est-ce que vous trouvez, par exemple, que la justice se veut peut-être un peu plus laxiste, peut-être un peu prend plus son temps envers les hommes politiques ou les hommes qui ont du pouvoir? Ou alors, selon vous, est-ce que c'est parce que les éléments, les indices pour mener l'enquête à bout sont, c'est pas forcément évident de recueillir des indices qui parlent d'eux-mêmes, ou selon vous, non, la justice fait très bien son travail. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça?
Je sais pas vraiment au niveau. Si c'est. Ça prend vraiment. S'ils font exprès de prendre du temps sur ces affaires-là, mais ce qui est sûr, c'est que c'est médiatisé en fait. Et donc, c'est sûr que ça, c'est peut-être. Le fait d'être médiatisé qui peut prendre plus de temps à la justice. Au niveau de. Comment transmettre des informations sans tout transmettre non plus pour pas créer vraiment des polémiques ou des fausses rumeurs, etc. Je pense que là, je pense que ça peut être un frein au jugement.
Au bon cours de l'enquête.
Enfin, ouais, je pense.
Bon fonctionnement de l'enquête. Owen.
Oui. Moi personnellement. Je m'intéresse pas trop à la politique, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, il n'y avait pas que cette affaire où il y a eu des transferts d'argent.
Ouais.
Mais, je suis pas vraiment. Je m'intéresse pas trop à ce sujet, donc j'ai pas vraiment d'avis personnellement.
Mais est-ce que. Je vais juste répéter.
Oui, vas-y, vas-y.
Tu trouves que, la justice est peut-être un peu laxiste ou prend peut-être un peu trop son temps lorsqu'il s'agit de juger des hommes politiques ou du moins des gens qui ont du pouvoir, ou alors c'est parce que selon toi les indices sont assez difficiles à retrouver, l'enquête se veut assez difficile, ou non, la justice fait bien son travail? Enfin, qu'est-ce que tu en penses de tout ça?
Je pense que la justice, la justice suit quand même la loi, donc je pourrais quand même dire qu'elle fait son travail, entre guillemets. D'un certain angle.
Ah, il faut savoir que dans l'affaire Sarkozy, déjà pendant qu'il était président, bien sûr, il avait l'immunité présidentielle.
Oui, c'est
faut pas l'oublier. Alors déjà, ça retardait un petit peu l'annonce des indices et bien sûr de l'enquête qui a commencé, elle, en 2013. Après, c'est une personne influente qui a beaucoup de... Donc, comme je le disais, de connaissances, d'influence et d'argent. Et donc, c'est vrai que engager des procédures judiciaires contre ce genre de personnes, ça peut être risqué. Et je pense que ça joue aussi sur la durée, à la fois, du moment où on se rend compte qu'il y a un problème, jusqu'à la durée de l'enquête en elle-même. Déjà, le fait qu'il ait pu quitter sa garde à vue en plein milieu à minuit pour rentrer chez lui tranquille, dormir à son appart et repartir au commissariat, c'est déjà une preuve que son statut d'ancien président et de personne influente a joué. Parce que c'est pas le petit voleur comme ça qui va pouvoir rentrer chez lui tranquille et ensuite retourner au commissariat quand bon lui semble. Et ça, il faut le garder à l'esprit.
Et tu penses que c'est un, comment dire, une exception ou un cas qui se veut plus ou moins général?
Je pense que c'est plutôt une exception. Il n'y a que les personnes de non, ce statut
je...
qui
oui, voilà, mais je veux dire...
La généralité des hommes politiques, en fait.
Et voilà, enfin, pas forcément politique, mais des gens qui ont une influence du pouvoir, c'est pas forcément...
Ça dépend des personnes, je pense. Mais effectivement, si Nicolas Sarkozy, ou on va prendre par exemple l'actuel président ou un président étranger. Imaginons qu'il y a un de ses ministres qui est inculpé d'une chose. Forcément, ils vont faire en sorte que, d'étouffer l'affaire, d'éviter que certaines choses ressortent. C'est obligé, c'est ce qu'on appelle le jeu d'influence et ça pèse.
Ok, ok. Parce que j'avais quand même quelques exemples concrets... Parce que les affaires, c'est pas ce qui manque dans...
Ne t'en fais pas, tu peux nous les sortir, hein, ça va corroborer sûrement ce qu'on raconte.
Ah, je pensais peut-être aux Balkany qui sont accusés d'avoir caché 13 millions au fisc, ou Claude Guéant qui a été condamné à un enferme en appel, et pourtant on le voit assez régulièrement sur les plateaux télé. Enfin, je dis ça comme si... On avait tous entre guillemets des pourris en France, mais je pense que dans les autres pays, c'est pas forcément mieux.
C'est pas forcément mieux, mais c'est vrai que si on faisait en sorte que les hommes politiques n'aient le droit à aucune erreur à ce niveau-là, au niveau judiciaire, on aurait déjà plus du tout les mêmes hommes, je pense, déjà à la tête de l'État. Mais le problème, en fait, c'est que la France étant une monarchie présidentielle, c'est souvent des gens de base riches et influents qui ont accès plus facilement au pouvoir. Ce qui nuit grandement, je pense, au côté anticorruption.
Et justement, est-ce que vous avez peut-être des idées ou des esquisses d'idées, des solutions pour justement contrer efficacement contre cette corruption? À votre avis, déjà, à quoi est due cette corruption?
À l'argent. Il faut savoir que le monde politique et celui de la finance sont très liés, c'est ça le problème. Mais bon, dans un monde capitaliste comme aujourd'hui, c'est impensable de décoller le politique de l'argent, des grosses sommes. Et après, ces hommes politiques, ils se renouvellent comme ils peuvent, et en général, c'est dans des banques ou à des niveaux où ils peuvent utiliser leur influence.
Est-ce que la corruption est vraiment purement capitaliste? Est-ce qu'il n'y avait pas non plus de la corruption, je ne sais pas, par exemple, en Union soviétique ou...
Ah non, mais oui, mais c'est vraiment un jeu de pouvoir et d'argent. C'est-à-dire que c'est pas uniquement le capitalisme le problème. C'est les régimes qui permettent à des gens de s'élever très haut dans la société et d'avoir énormément de droits sur tout, et qui donc leur permettent d'avoir une belle vie. Et malheureusement, quand tu as accès à beaucoup de ressources, tu te dis rarement il faudrait que je distribue ces ressources. En général, le côté humain ressort et on préfère garder tout pour soi.
Et donc Clément, à ton avis, pour contrer ça, comment on devrait s'y prendre pour du moins diminuer la corruption?
En fait, on voit beaucoup d'hommes politiques, forcément, on voit beaucoup d'affaires là-dessus et tout. Après, je pense que... Comment ? Il y a un fait plus à la base qu'on peut prendre en considération, c'est-à-dire que souvent... On voit les hommes politiques qui arrivent au pouvoir, ou même ceux qui se prétendent, ou qui arrivent dans le monde politique, viennent souvent des mêmes écoles, en fait. Et je pense, des mêmes écoles ou d'un même regroupement d'écoles, etc. Vois. Et je pense que le fait qu'il y ait une centralisation, du moins, de la formation de ces hommes politiques, peut jouer au niveau des corruptions, au niveau des idées, etc. Et comment la France va être gérée. Donc, le fait qu'il y ait cette centralisation de prise de connaissances, en fait, les mêmes écoles ou les
mêmes milieux, les mêmes réseaux.
Voilà. Ça fait un petit peu la classe politique, c'est en fait des camarades de classe.
Voilà,
on appelle ça classe politique, mais c'est pas pour rien.
Voilà, c'est ça que je pense qu'il y a à mettre en avant. Et que je pense que si, par exemple, il y avait des écoles politiques, une formation politique qui était dispatchée de dans toute la France, je pense qu'il y aurait moins cet aspect de corruption.
Ok. Et toi, Owen, est-ce que t'es plutôt d'accord, ou est-ce qu'il faudrait donc décentraliser le pouvoir, ou est-ce que c'est peut-être...
Pour revenir à ta question tout à l'heure pour empêcher justement ce problème.
Oui.
Moi personnellement, je trouve que ça risque d'être compliqué parce que c'est quand même des chefs d'État, enfin, ou alors des anciens chefs d'État comme Nicolas Sarkozy, qui font justement ce genre de transfert. Et donc je disais comme quoi ça risquait d'être compliqué, étant donné que c'était quand même des hommes politiques, des hommes qui ont été au pouvoir, comme donc je disais Nicolas Sarkozy. Et justement, ils ont entre guillemets la loi avec eux, la justice avec eux. Et donc, je pense que c'est eux qui ont le pouvoir, entre guillemets. Donc, du coup, ça va être un peu difficile de contrer
les corruptions possibles.
Voilà, c'est ça.
Ok. Désolé de t'arrêter. Nous allons devoir faire une pause. Et tout de suite, on écoute, juste pour la blague, Renard Sacripant. Ça va bien dans le thème, dans le sujet. Allez, on se retrouve tout de suite.
C'est que l'autre est dans votre poche, dans une église tout en ferveur. C'est sûr qu'il va voler les cloches.
C'est sûr qu'il va voler les cloches.
Boni menteur, surtout menteur, de couleur feu et d'artifice. Escroc mignon, gentil frimeur. Sa vérité, c'est la malice. Croisez son regard dans la rue, vos lunettes ont disparu.
Vos lunettes ont disparu.
Renard sacripant, sacré pouille. On se dit toujours qu'il est sympa lorsque Renard vous serre la main. Plus tard, en comptant sur ses doigts, on s'aperçoit qu'il en manque un.
On s'aperçoit qu'il en manque un.
On est malade, il est docteur. On est poulet, il vous rôtit. On est poisson, il est pêcheur. On est ruiné, il est parti. Il manque pas d'air, le mariole. Plus gonflé que lui, tu t'en vas. Qu'il a volé les assiettes. On est fauché, il vous moissonne. On vous pirate, il n'a qu'un œil. On vous escroque, il vous mâchonne. Mais le bouquet, c'est qu'il vous cueille. S'il salue bien bas en courbette, sur qui il a piqué vos chaussettes.
Sur qui il a piqué vos chaussettes.
Renard sacripant, sacripouille, coquet, coquin. Renard chenapant, sacripouille, sacripouille. Vaut rien.
Renard.
Piquant de loin, rusé de près. Si les renards désargentés pour la débrouille, il s'y connaît. Finot filou, fripon futé.
Finot filou, fripon futé.
Il a plus d'un tour dans son sac, surtout dans le sac des voisins. Genre de loustique qui a pas le trac. Si sûr de lui qu'il doute de rien. La vie roule bien pour cette canaille. Toujours bon train.
Vous êtes sur l'actualitime et on reprend pour donc sur PFM Radio 99.9 et on reprend le débat où on parlait donc notamment de l'affaire qu'il y a
Sarkozy.
Exactement, sur Nicolas Sarkozy. On en profitait justement pour parler de la corruption dans ce genre de sphère de pouvoir et d'influence.
Oui, okay.
Et justement, j'ai comment dire. Il y a sur Internet une idée qui fait son chemin, où il y a pas mal d'adhérence. Je ne sais pas si vous connaissez Étienne Chouard. Et donc lui, il dit grosso modo, je caricature, mais l'élection, c'est une forme de compétition. Enfin, ouais, une forme de compétition, et ça pousse. À la corruption. C'est celui qui met le plus de moyens sur sa campagne qui a le plus... Oui, voilà, gagne. Et qu'il y a aussi une sorte d'élitisme. Et donc lui, ce qu'il propose, c'est une idée, c'est au lieu de faire des élections, ça serait de faire comme les Athéniens pendant la Grèce antique, ils ont fait ça pendant plusieurs centaines d'années, ça serait donc une sorte de tirage au sort. Et donc, selon lui, toujours, même si je caricature toujours le trait, c'est, comment dire, ça donnerait plus de... Il y aurait plus d'égalité entre les différents candidats, ça pousserait moins à la corruption, et, comment dire...
Qu'est-ce que ça s'appelle par tirage au sort? Parce que ça revient au même quand on vote.
Ah non.
Non, ça... En fait, le problème, c'est que quand on vote, c'est parce qu'on a quelqu'un dans l'idée. Donc celui qui nous ressort le premier dans la tête, si on n'est pas du genre à être un électeur averti, à bien regarder les programmes et tout, donc dans la majorité des cas, on vote pour celui qu'on connaît le plus, pour celui qui est peut-être, on va dire, dans notre entourage, si on a des gens de sympathie communiste, on va voter plutôt communiste. Je sais pas, je donne un exemple.
Okay.
Par contre, l'avantage du tirage au sort, c'est que ça va tirer au sort aléatoirement, donc avec l'équité des chances, littéralement. Ouais. Un parti politique au hasard, c'est-à-dire que peut-être que cette année-là ça va être les communistes qui seront au pouvoir, l'année d'après ça va être je sais pas le national libéral, enfin je dis des noms au hasard et
ouais, mais donc du coup le peuple ne choisit plus, du coup, donc c'est pas une démocratie.
Alors les partis politiques sont des partis du peuple quelque part. Et donc, on peut imaginer, par exemple, que plus il y a de personnes sympathisantes d'un parti, plus il y aurait de membres qui puissent postuler à un poste.
Et plus il y aurait de probabilité.
Voilà, probabilité d'être sélectionné. Enfin, c'est un système qui est pas
inintéressant. C'est aléatoire, en fait. C'est
mais
pas...
moi, c'est pas celui que je prendrais le plus. Ouais. Mais c'est vrai que c'est intéressant de retrouver aussi des choses qui ont été faites dans le passé.
Ça permet de remettre en perspective, de repenser, ouais. Je trouve.
Loïc,
non, mais c'est intéressant de donner de nouvelles idées comme ça.
Loïc, tu t'es renseigné sur le sujet, sur cette méthode justement qui était dans la Grèce antique. Est-ce que ça marchait? Est-ce que ça fonctionnait, cette méthode?
Oui, plutôt. Il y avait, mis à part les esclaves, faut pas oublier, c'était pendant la Grèce antique, mm-hmm. Mais mis à part les esclaves, le peuple était assez représenté, oui.
Faut savoir que les Grecs avaient pas d'esclaves en soi, c'était les Romains qui avaient des esclaves.
Oh, il me semble que... je suis pas si sûr.
Il y avait les Métèques.
Oui, les Métèques, bien sûr, mais
ils
n'étaient
pas catégorisés comme esclaves. Enfin, ça dépend des époques, mais je crois qu'ils n'en avaient pas.
Je ne parle pas des Métèques. Il me semble qu'il y avait des... J'en suis pratiquement sûr. Après, ça dépendait des cités, etc.
On n'est pas là aussi pour parler d'antiquité.
Nouveau débat sur l'esclavage.
Donc, toi, Clément, qu'est-ce que tu penses de...
Sur le système aléatoire, l'aléatoire, je pense pas que ce soit une solution. Mais je pense que... au niveau de ces élections, si on reste toujours dans le domaine, il faut élire un président, et etc. Je pense que ça va être plus encadré au niveau des fonds qui sont mis en place pour chaque candidat, pour avoir une égalité là-dessus, et pas que chaque candidat doit chercher ses fonds pour lui, en fait. Je pense qu'il devrait instaurer quelque chose pour que tout le monde soit à égalité au niveau des fonds qui sont mis en place. Pour que tout le monde ait les mêmes chances au niveau financier. Et après, c'est selon les campagnes, comment ils font passer leur message, etc., que là, ça se disputerait. Je pense que c'est une meilleure solution que l'aléatoire. Je pense pas que l'aléatoire puisse...
Après, dans le système où on surveille bien les fonds de campagne,
ouais.
C'est déjà le cas. Mais il y a une instance, j'ai plus le nom exact, je suis désolé, c'est pas très précis, mais il y a une instance qui s'occupe justement de surveiller les dépenses, etc.
Mm-hmm.
Et c'est déjà arrivé, par exemple, il me semble, pour la campagne de Jacques Chirac, où des fonds ont été dépassés et ils n'ont rien dit pour éviter les polémiques politiques ou tout.
Ouais.
Pas bien les chiffres, mais je crois que c'est juste limité, mais il n'y a pas de minimum.
Si, il y a un seuil, et le seuil, il est de, en tout cas actuellement, 22,5 millions.
Ouais, c'est le maximum.
Le seuil maximum, ouais.
Mais ceux qui n'ont pas les moyens ne pourront jamais atteindre le maximum. Et
ceux
qui ont les moyens le dépassent souvent.
Et c'est clair que on aurait, enfin tous, moi compris, on a tendance à voter les gens qu'on voit plus souvent sur nos écrans, à la télé, ceux qu'on voit régulièrement, ceux qui prennent la parole le plus souvent.
Ouais, c'est fait exprès en même temps.
On voit très bien que...
Ouais, la majorité des gens vont pas se taper des pages et des pages de programmes, surtout que dans l'imaginaire des gens, enfin pas l'imaginaire, on va dire dans la pensée des gens en général, on se dit pas il va réaliser son programme, on se dit lui il est plutôt du parti de mon entourage, hop je vote pour lui. Ou par exemple, en général, si t'es pas trop politique, bizarrement, tu te dis « Ouais, mais il faut quand même que j'aille voter, c'est mon devoir. » Si tu réfléchis pas plus loin, tu te dis « socialiste, ouais, j'ai un pote qui m'a dit que le socialisme, c'est bien parce qu'il arrête pas d'insulter les gens de la droite et tu votes socialiste. » Voilà, et ça sert à ça la communication.
Oui, mais
ouais, c'est sûr.
Est-ce qu'on... Enfin, lors de la campagne, on voyait bien plus un Macron ou un Mélenchon, enfin ou une Marine Le Pen ou j'en sais rien, que un Philippe Poutou ou ou d'autres plus petits candidats comme
les partis beaucoup moins représentés.
C'est sûr, on les voyait moins, hein. Non, mais vraiment.
Ah, on me signale que c'est déjà la fin. Finalement, c'est passé assez
rapidement.
Oui.
Surtout en votre compagnie.
D'accord, bon bah merci de nous avoir écoutés, en espérant que ça vous a plu, ça vous a peut-être fait réfléchir, on ne sait pas. Et en tout cas, on vous donne rendez-vous vendredi prochain, enfin la prochaine fois. Voilà.
Oui.
Et merci beaucoup, bon bah au revoir, ciao.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.